Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Par ce texte des psaumes et puis par les autres textes que je vous ai donnés, vous avez pu avoir des éléments sur le dessein de Dieu. Pourquoi finalement Dieu nous a créés? Nous le découvrons comme une volonté d'unité avec lui. Il nous a créés à son image, comme un reflet de son identité, vous l'avez lu. Mais cette image, elle est à la fois à découvrir, à construire, et ce n'est pas une image comme un reflet seulement, c'est une alliance. Et donc c'est beaucoup plus compliqué qu'une sorte de clone matériel, par exemple, que vous pouvez imaginer être, de Dieu, ou une évocation de Dieu, ou un symbole de Dieu, je ne sais quoi dire encore. C'est beaucoup plus vivant et plus complexe et plus beau. Dieu nous crée et il nous révèle pourquoi. C'est Dieu agit, mais il nous parle en même temps. Il nous pose devant lui et il nous offre une alliance. D'emblée dans la Genèse, l'homme est créé et Dieu s'adresse à lui. La foi est le canal qui nous ouvre cette relation à Dieu, qui perce même les nuages des ténèbres et du mal, car nous ne sommes pas dans un monde hanté d'abcère. Le péché est passé par là, et donc nous sommes dans une nuée. L'ensemble du discours du Concile et des Écritures ne font pas abstraction de cela, de ce que nous vivons, bien sûr, au quotidien. Donc là, à chaque fois, en noir, ce sont des extraits de Gaudium et Spes que vous n'avez pas eu dans dans ce que vous avez étudié, et qui, du coup, complètent un peu. La foi, en effet, éclaire toute chose d'une lumière nouvelle et nous fait connaître la volonté divine sur la vocation intégrale de l'homme, orientant ainsi l'esprit vers des solutions pleinement humaines. Alors ce thème de vocation intégrale de l'homme va être une sorte de leitmotiv, une clé qui va être énormément repris et qui est, que je veux, au cœur de ce patronage et puis du projet éducatif de la paroisse qui sous-tend aussi la colonie de vacances, la manière dont on travaille au catéchisme, etc. C'est qu'il ne faut pas cloisonner l'homme dans ses différents aspects, mais aider notamment les enfants et puis l'ensemble des hommes à entrer dans une unité profonde des différentes composantes de notre personnalité, depuis la plus extérieure, de certaines manières, la plus externe, la réalité corporelle et matérielle, jusqu'à la plus profonde, le tréfonds de l'âme, le lieu de la conscience et de l'union à Dieu. Voilà, en passant par l'intelligence, le psychisme, l'ensemble des réalités humaines. Dieu nous a créé tout un, et nous veut grandir tout un. Et dans cette perspective, nous comprenons aussi mieux peut-être la résurrection des corps, qui n'est pas comme une sorte de complément un peu bizarre à la survivance de l'âme, mais qui est profondément cohérent avec la manière dont Dieu nous a créés, dans ses différentes composantes, à la fois corporelles et spirituelles. Eh bien, il nous veut dans la vie éternelle les vainqueurs de la mort et des ténèbres, dans ses différentes composantes aussi. L'homme cherche. Alors le Concile, je vais lire dans le texte, mais qu'est-ce que l'homme? Sur lui-même, il a proposé et propose encore des solutions, des opinions multiples, diverses et même opposées, suivant lesquelles souvent, ou bien il s'exalte lui-même avec comme une norme absolue, ou bien il se rabaisse jusqu'au désespoir, d'où ses doutes et ses angoisses. Alors, le Concile, c'est une sorte de relecture, de lecture de l'histoire, et constate que l'homme cherche, et sans cesse, à travers toutes les civilisations, toutes les époques, avec une grande force, cherche à savoir qui il est, profondément, non seulement par la pensée, mais aussi par ce qu'il construit en société, pour lui-même. Alors, mon autre point, le corps animé ou in-âme incarné, le discours chrétien a été marqué par un discours platonicien où on sépare le corps et l'âme. Et où, du coup, on va jusqu'à dire que le corps est une enveloppe dont il faut se débarrasser à la mort, et dont il faut se méfier pendant la vie sur Terre, et l'essentiel est l'âme. Ce n'est pas la conception juive et authentiquement chrétienne de la personne humaine. On ne devrait pas parler de corps et d'âme, mais d'un corps animé ou d'une âme incarnée, pour signifier la profonde unité de l'un et de l'autre. Pour un juif, un mort, c'est simplement quelqu'un dont le corps et l'âme sont séparés, mais il est mort. La vie, c'est le corps et l'âme qui sont ensemble. La vie éternelle, pour le juif, c'est la résurrection. Ça ne veut rien dire que de vivre sans son corps. Ce n'est pas seulement pour le juif, mais c'est pour la révélation biblique, donc c'est aussi pour nous. Corps et âme, mais vraiment un, l'homme est dans sa condition corporelle même, un résumé de l'univers des choses qui trouvent ainsi en lui leur sommet et peuvent librement louer leur créateur. C'est une phrase absolument magnifique. Qu'est-ce que ça signifie que l'homme est un résumé de l'univers des choses? Bien, vous comprenez simplement, l'homme est un mammifère, l'homme est un être vivant, chaque fois je descends d'un cran, hein. L'homme est matériel, on a les mêmes atomes de carbone que le diamant que vous portez au cou ou au doigt. L'homme est composé des mêmes atomes, des mêmes molécules que tout ce qui existe. Donc tout ce qui est en nous vient de cet univers et y retourne. Nous sommes du même bois, jusque donc le monde du vivant et le monde mammifère. Nous sommes profondément solidaires de ce monde. Et une chose peut-être peut nous toucher, c'est le rapport aux animaux. Tout ce qu'ils peuvent nous apporter sur la compréhension, la connaissance de nous-mêmes, dans la fréquentation des animaux. Mais nous sommes aussi un corps et un animal animé, non pas seulement de l'anima grec, de l'anima, c'est-à-dire l'anima de l'animal qui lui donne vie, mais d'une anima capax dei, une anima capable de Dieu, d'une âme qui est capable d'être unie à Dieu, de librement s'ouvrir à Dieu et se donner à Dieu. Pas seulement d'entrer en relation avec lui, comme ce serait une antenne un peu spéciale qui nous permettrait de communiquer avec Dieu, non, pas du tout. Nous sommes, non pas de même nature, mais naturellement, en intelligence participée avec Dieu. Notre intelligence humaine et notre âme est déicompatible. C'est ce que nous trouvons dans la vie spirituelle qui finalement est très simple. Plus nous avançons dans la vie spirituelle finalement, plus c'est simple. Plus on comprend que ça nous est naturel en quelque sorte que d'être en relation d'amour et d'alliance et d'intelligence avec Dieu. Ce qui fait qu'en nous-mêmes, nous avons tout l'univers, depuis l'atome le plus simple jusqu'à Dieu lui-même. Tout est en l'homme, c'est ça qu'il veut dire. Et donc quand l'homme se met à louer son Créateur et à servir son Créateur, c'est toute l'humanité, tout le monde animal, tout le vivant qui suit, à cause de cette unité profonde. On peut dire à bon droit que nous chantons le matin en disant les laudes, ou on chante notre louange du matin, nous chantons pour l'univers, pardon. Nous chantons Dieu pour l'univers, c'est réel. Nous chantons Dieu pour tout le cosmos, c'est réel. Parce que nous seuls pouvons à la fois être solidaires de ce monde, à la fois matériel, encore une fois, dans le vivant animal, et en même temps, pouvoir nous adresser à Dieu. Nous seuls sommes capables de cette offrande de notre être et de cette louange et de cette union à Dieu. Et cela va culminer d'une manière totalement vertigineuse dans l'homme Jésus. Parce que l'homme Jésus est Dieu lui-même. Il est la porte qui fait que non seulement nous-mêmes pouvons entrer en relation avec Dieu et comme entraîner l'univers, tout le cosmos avec nous, mais il est la porte même de Dieu, de la vie trinitaire, à cause de l'union en lui et de l'humanité, et donc par l'humanité de tout l'univers, avec Dieu lui-même, car il est fils de Dieu, il est vraiment Dieu. Par lui, finalement, l'homme et donc tout l'univers et Dieu font un, consubstantiellement noués, scellés, pas avec n'importe quel ciment, scellés éternellement dans la personne du Fils de Dieu. Car dans sa personne sont unis inséparablement la nature humaine et donc tout le cosmos et Dieu lui-même. Donc cette phrase, elle contient tout ça, quoi. Et donc, à cause de cette vocation inouïe de notre propre corps, qui entraîne avec lui tout le vivant, eh bien, il nous est interdit de donner cette vie corporelle qui est promise à la vie éternelle, à la résurrection. Pour ça, ça ne veut rien dire de dire que notre corps ressuscitera sans que le cosmos tout entier soit transfiguré, soit transformé d'une manière qu'on ne sait pas encore, mais en tout cas, de façon solidaire. C'est trop facile de dire « Ah, ben, on ne sait pas ce qu'il y a après la mort, alors on ne dit rien, et puis on ricane un peu en disant « Ah, il n'y aura pas assez de place sur la Terre. Enfin, » ce genre de bêtises qui cachent notre ignorance. Mais en fait, on peut dire des choses, vous voyez, on peut commencer à dire cela, sans pour autant pouvoir décrire exactement ce qui va se passer. Bien sûr, ça, on ne le peut pas. On le vivra. Par contre, Dieu s'ingénie à nous le révéler dans les Écritures et dans la tradition, de révéler son dessein, son but. Et ça, on peut le comprendre déjà et le pressentir déjà aujourd'hui. Respect de son âme. Alors, bon, je l'ai déjà un petit peu abordé ça. Par son intériorité, il dépasse en effet l'univers des choses. C'est à ses profondeurs qu'il revient lorsqu'il fait retour en lui-même où l'attend ce Dieu qui scrute les cœurs et où il décide personnellement de son propre sort sous le regard de Dieu. Ainsi, il reconnaît en lui une âme spirituelle et immortelle. Il n'est pas le jouet d'une création imaginaire qui s'expliquerait seulement par les conditions physiques et sociales. Bien au contraire, il atteint le tréfonds même de la réalité. C'est vrai que c'est vraiment des textes qui sont d'une profondeur abyssale. Précisément, c'est qu'à le dire. En quelque sorte, dans la tradition chrétienne, juive, de retrouver Dieu au plus profond de soi-même, de faire cet exercice spirituel, d'aller visiter son intériorité, notamment par la méditation, par la réflexion, la méditation, et puis le fait de chercher à être uni à Dieu, dans ce qu'on peut appeler le cœur à cœur avec Dieu, eh bien, on ne s'extrait pas du monde, on ne fait pas abstraction du monde. On va à la racine du monde. On va rencontrer celui qui porte dans l'existence ce monde. Mais c'est ce qui nous fait dire qu'on va au tréfonds même de la réalité, vous voyez. On ne va pas sur une sorte de planète à côté. On pénètre le sens profond de ce qui existe, de ce qui est, si vous voulez. On ne fait pas que visiter l'extérieur de la maison, on va dans les caves, on découvre la profondeur de ses fondations. Où on ne reste pas qu'à la surface de l'océan, on pénètre dans les profondeurs de l'océan. Et donc là aussi, nous découvrons dans ce texte que c'est une expérience humaine, dans la tradition, dans la grande tradition humaine, hein, plus large que la tradition judéo-chrétienne, mais qui est au cœur de la tradition judéo-chrétienne, que de faire l'expérience d'avoir une âme immortelle. C'est-à-dire de comprendre par notre intelligence et notre cœur, par le tréfonds de notre être, que ce qui est en nous, ce qui est moi, ce qui est le plus profondément moi, j'en ai la certitude, ne peut pas mourir, est immortel. Je ne sais pas comment, je ne sais pas tout ce qu'on veut, selon les traditions, on partage, mais c'est une expérience humaine, si vous voulez, alors qui est frappé de la fragilité humaine, et notamment de la fragilité due au péché et aux ténèbres. du doute sur soi-même, du doute de Dieu qui, du coup, jette un voile de doute sur nous-mêmes. En doutant de Dieu, nous doutons de nous-mêmes, évidemment. Mais néanmoins, justement, il y a ce chemin de guérison en découvrant Dieu, en entrant en relation avec lui. Peu à peu, je prends confiance en lui et je lève ce voile, ce doute sur la réalité de mon âme immortelle qui est au plus profond de moi et qui est moi-même, qui est en fait le plus moi-même, qui est le très fond de ma personnalité unique. Alors, une intelligence participée. De nos jours, l'homme a obtenu des victoires hors pair, notamment dans la découverte et la conquête du monde matériel. Depuis les années 60, on a fait encore beaucoup de progrès. Toujours cependant, il a cherché et trouvé une vérité plus profonde. Car l'intelligence ne se borne pas au seul phénomène, elle est capable d'atteindre avec une authentique certitude la réalité intelligible, en dépit de la part d'obscurité et de faiblesse que laisse en elle le péché. Bon, ça, je viens de l'expliquer, en fait. Jean-Paul II a beaucoup développé la question du doute sur l'intelligence, la perte de la relation vivante à Dieu, aussi jette un voile, pas seulement sur notre âme immortelle, mais aussi sur notre capacité d'intelligence des choses, sur notre capacité d'appréhender le réel. Notre intelligence est-elle capable de rejoindre le réel? Ou ne se fait-elle perpétuellement qu'une image et un modèle à partir de pression sociale ou d'une sorte de modèle? Sommes-nous, l'intelligence est-elle capable d'entrer dans la réalité? Et même, existe-t-il une réalité? Ce sont ces doutes très profonds, en fait, qui traversent l'humanité et qui sont, d'une certaine manière, des conséquences de cette fragilisation de l'être même humain dans sa perte de relation avec Dieu qui en est le fondement, qui en est la source. L'intelligence faite pour comprendre le visible à la lumière de l'invisible. Enfin, la nature intelligente de la personne trouve et doit trouver sa perfection dans la sagesse. Celle-ci attire avec force et douceur l'esprit de l'homme vers la recherche et l'amour du vrai et du bien. L'homme qui s'en nourrit est conduit du monde visible à l'invisible. Nous comprenons dans cette phrase « Je vois une vie tout entière », c'est-à-dire une vie où on cherche la vérité, on cherche le bien, on cherche la sagesse. On la construit aussi peu à peu par des actes que l'on pose, des livres que l'on lit, des relations que l'on ouvre et que l'on tient, dans lesquelles on persévère, etc., etc. La personne trouve et doit trouver sa perception dans la sagesse. Elle attire avec force et douceur l'esprit de l'homme vers la recherche et l'amour du vrai et du bien. Ça, c'est la définition de la sagesse, c'est la recherche et l'amour du vrai. Et il y a les deux. Il n'y a pas que la recherche du vrai, il y a la recherche et l'amour du vrai. Donc, et du bien. Il y a les deux. C'est-à-dire que les deux facultés de l'homme les plus profondes, celles de connaître le vrai et d'aimer le bien, sont engagées dans la sagesse. L'amour du bien et la recherche du vrai par notre intelligence. L'homme qui s'en nourrit est conduit du monde visible à l'invisible. Donc là encore, il ne s'agit pas de s'abstraire du monde visible, il s'agit, là on voit bien dans le texte, de comprendre le monde visible à la lumière de l'invisible. Et on voit bien, c'est une comparaison un peu simple, mais il est infiniment supérieur de savoir pourquoi on fait ceci ou cela, et quel est le sens de ce que l'on fait, et donc, et de le faire, même imparfaitement, que de faire quelque chose parfaitement, sans absolument savoir et pourquoi on le fait et pour qui. Ça, on le voit, je dirais, presque au quotidien. notamment dans la relation éducative. Et l'homme est fait pour savoir pourquoi il fait les choses, pour qui il le fait, et de s'en saisir et de le choisir et de le vouloir. C'est la base. Enfin, je dirais, oui, c'est vraiment... Ainsi, ce qui est visible, ce que l'on fait, on pourrait dire, et doit être piloté par ce qui est invisible, c'est-à-dire ce pourquoi on le fait, les raisons pour lesquelles on le fait, pour qui on le fait. L'homme qui s'en nourrit est conduit du monde visible à l'invisible, il est construit du monde qu'il vit, finalement, au monde qui en est la source, qui en est la cause, qui en est le but aussi, au monde invisible. C'est-à-dire Dieu lui-même. Dieu, oui, et puis ses desseins et son plan. Alors, on a parcouru rapidement l'homme dans son unité, dans sa dimension corporelle, dans sa dimension intellective, dans son intelligence. Son intelligence au sens large. J'avais parlé de l'intelligence relationnelle, l'intelligence qu'on pourrait étendre, l'intelligence artistique, philosophique, bien sûr, l'intelligence scientifique. Donc, les intelligences très déductives qui ont besoin de passer par B pour aller de A à C. Les intelligences plus intuitives, qui vont appréhender ABC comme un ensemble, et qui vont le comprendre comme par une vue d'avion. Donc il y a différents types d'intelligence, des intelligences qui parlent avec des mots, il y en a d'autres qui parlent avec davantage avec des symboles. Alors ça c'est l'intelligence au sens le plus large qui soit, et elles sont toutes bonnes et légitimes et nécessaires. Et on en est pourvu de manière très différente selon les personnes et les histoires. Et donc le dernier élément capital qui va porter ce que nous verrons la prochaine fois, la liberté, c'est la conscience. Et donc le Concile parle d'un sanctuaire. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu, où sa voix se fait entendre. Donc c'est... On pourrait dire que c'est l'âme, oui, mais c'est l'âme en ce que c'est l'âme avec comment dirais-je, c'est l'âme en ce que c'est le lieu de la rencontre où l'on écoute la loi de Dieu, mais c'est une partie de l'âme qui a comme fonction de juger des choses. De juger de la bonté ou de la malice des choses, de juger si cela est de l'ordre de l'amour ou ne l'est pas. On va voir ça. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée à lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. On va voir pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer, ça faut apprendre ça par cœur, cette voix est trois choses, elle ne cesse de le presser d'aimer, de faire le bien et de renoncer au mal. C'est pas très compliqué. Et c'est important parce qu'il y a les trois, il ne faut pas oublier l'un des trois. Au moment opportun, donc c'est dans l'action, là où c'est nécessaire, résonne dans l'intimité de son cœur, fait ceci, évite cela. Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme, sa dignité, la dignité de l'homme, est de lui obéir, et c'est elle qui le jugera. Alors, de même qu'un homme peut ignorer sa capacité de prier et ne l'avoir que très peu exercée, ou pas du tout, de même, la conscience peut être ignorée d'une personne humaine. Elle peut ignorer d'abord ce tréfonds, ce niveau de sa personne. Elle n'a jamais eu la possibilité d'entrer dans l'intériorité. Je pense que c'est de plus en plus quand même le cas chez beaucoup de personnes. Et surtout, de pouvoir y découvrir, y consulter, et y écouter, en quelque sorte, cette voix. Et donc, de s'exercer à ça. C'est, encore une fois, c'est comme la capacité du cœur nouveau de la prière, dont j'ai parlé souvent. Il y a aussi l'exercice de l'écoute intérieure de la conscience. Alors, je ne sais plus quel saint disait, on a deux oreilles, parce qu'il y en a une qui écoute l'intérieur, qui écoute la conscience, et puis il y a l'autre qui écoute la parole extérieure, qui peut être les Écritures ou le conseil des magiens. Voilà. Et ben, nous avons fait l'expérience, j'espère, les uns et les autres, mais de consulter en quelque sorte, ou de ne pas le faire, de consulter cette voix intérieure, ce tréfonds de nous-mêmes, bon, vous voyez, cette espèce de pause qu'on a en soi-même. Bon, voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il en est exactement? Vers quoi la balance penche? Qu'est-ce qui m'appelle intérieurement? Et là aussi, je crois que dans l'éducation, on a un vrai devoir, un vrai appel à transmettre cela. Alors, une conscience infaillible, point d'interrogation. Toutefois, il arrive souvent que la conscience s'égare par suite d'une ignorance invincible, sans perdre pour autant sa dignité. Alors ça, c'est un petit peu subtil. Donc, voilà. Ce que l'on ne peut dire lorsque l'homme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien, et lorsque l'habitude du péché rend peu à peu sa conscience presque aveugle. Donc, conscience infaillible, non. Donc, il y a cette infaillibilité invincible qui peut être due à l'éducation et à la société dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'en toute droiture, on penche à faire cela alors que ce jugement que l'on porte est mauvais. Je ne sais pas, un enfant qui serait habitué dès son plus jeune âge à voler, eh bien, il peut, en tout cas c'est ce que pose ici le concile, en toute conscience le faire sans penser que c'est un vol, quoi. Alors que c'en est un. Il est invincible parce qu'il a été éduqué vraiment comme ça, au plus profond de lui-même, et que tous ces exemples adultes sont dans ce sens-là. Ça peut être aussi un jugement de conscience erroné sur Dieu ou sur la foi. Enfin, il peut y avoir aussi des... Alors, la conscience qui s'obscurcit, là, on voit que cette conscience, elle est un exercice, elle est une faculté humaine qui grandit et qui se fortifie dans l'exercice. L'homme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien, donc d'exercer l'acte de sa conscience et de son intelligence, et qu'au contraire, l'exercice n'est pas vertueux, c'est-à-dire d'exercer de plus en plus sa conscience pour avoir un jugement plus fin, plus rapide, plus prompt, mais au contraire, la pente vicieuse, non pas vertueuse, qui est l'habitude du péché, qui fait qu'on s'habitue de plus en plus, et que du coup, la conscience elle-même s'érode et s'obscurcit. Enfin, donc, une harmonie brisée à retrouver dans le Christ. Alors ça, c'est un texte que vous n'avez pas dans ce que je vous ai donné à la fin, où je vous ai mis tout le texte. Donc, c'est le numéro 22, je ne l'ai pas mis là, mais vous pouvez le retrouver donc sur Internet. C'est un passage très emblématique de la Constitution, qui est souvent cité. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, Jésus, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Il n'est donc pas surprenant que les vérités ci-dessus, donc tout seul qu'on vient de voir, trouvent en lui leur source et atteignent en lui leur point culminant. Voilà, notre Dieu, il est homme. Il est vraiment homme. Et il est l'homme, justement, créé à l'image de son Père, qui me voit le Père. Donc quand l'homme est créé, quand l'Adam est créé à l'image de Dieu, selon la Genèse, il a le visage du Christ, on pourrait dire. Vous voyez ? Et c'est le portail de Chartres, vous devez connaître ça, on a cette statue très connue, où on voit le Christ, son visage humain, etc. la croix derrière, qui modèle Adam comme de la pâte à modeler, et Adam a le visage de Jésus, ils ont le même visage. Alors c'est, là aussi c'est abyssal comme théologiquement, c'est pour en parler 3 semaines, mais ça, en 2 mots ça dit ça, ça dit que Jésus c'est l'Adam éternel, c'est l'Adam, c'est celui qui est vraiment à l'image, c'est l'homme vraiment à l'image de Dieu, et nous tous, nous sommes modelés par ses mains à son image. Et nous sommes modelés parce que de tout temps Dieu a voulu ça pour nous, être modelé par lui. Et la manière dont il nous modèle, c'est par le baptême et notre vie dans la grâce, notre vie avec la grâce de l'Esprit-Saint et avec la parole de Dieu. C'est ce modelage, en quelque sorte, cette restauration, elle va s'accomplir bien sûr dans notre résurrection, pleinement, définitivement. Mais elle se travaille, Dieu nous modèle, le Christ, l'homme, Jésus nous modèle, en quelque sorte, nous travaille ici-bas sur terre. C'est tout l'enjeu de notre vie sur terre. Et ce travail, eh bien, fait que si nous nous laissons modeler par lui, nous découvrons à la fois la sublimité de notre vocation, et nous découvrons l'homme que je suis, et l'homme que Dieu m'appelle à être, et l'homme dont je suis particulièrement, et du coup aussi ce qu'est l'humanité, la beauté de l'humanité tout entière. J'ai cassé ma montre, donc je ne sais plus du tout. 10 heures. Bon. Donc on a encore au moins 5 minutes, parce qu'on a commencé largement 5 minutes en plein. Alors, on va peut-être en une minute. En fraternité Emmaüs, le lien de tout ça avec la fraternité Emmaüs. Mais ce qu'il y a derrière le fait d'essayer de comprendre les textes, de laisser l'autre prendre le temps de les comprendre, de les travailler par lui-même, d'accueillir très positivement ce qu'il a compris du mystère de Dieu, de comprendre aussi l'enjeu de ce qui se passe pour mon frère quand il lit les textes et puis qu'il ose dire quelque chose et avancer dans sa recherche en me parlant. Je comprends que c'est le Christ qui le modèle d'une certaine manière. Il ne fait pas que découvrir quelque chose dans le texte sur Dieu. Par cet exercice-là, il se découvre aussi lui-même. Peu à peu, il découvre ce qu'il est. Il va s'étonner de dire ceci ou cela, ou d'avoir telle réaction ou telle pensée dans l'échange. Mais c'est un moment, c'est un creuset en quelque sorte. Et la qualité de l'écoute de mon frère, l'attention aussi va lui permettre de vivre ça. Et puis, mon frère aura la même attitude vis-à-vis de moi, et ils vont me permettre aussi de faire mon chemin réellement. Ça veut en quelque sorte dire ce qu'il y a derrière l'exercice, qui semble tout simple, mais qui est en fait quelque chose de très profond et de très existentiel. Donc, engager sa conscience, son intelligence dans l'échange. On prend les moyens, c'est-à-dire le temps. Ne pas aller trop vite, on va toujours aller trop vite, moi le premier. Mais... Et puis mettre le Christ au centre, parce que c'est lui qui œuvre dans cette révélation de l'homme à lui-même. C'est lui l'homme. Jésus est l'homme. Il est l'homme qui veut nous faire homme, qui veut nous restaurer dans notre dignité d'homme. C'est pas Dieu qui nous restaure en homme. C'est l'homme qui nous restaure en homme. C'est l'homme Jésus. Dieu veut passer par l'homme Jésus. C'est vraiment l'homme Jésus, c'est l'homme Jésus, c'est lui, c'est Jésus de Nazareth. C'est pas, bien sûr, on a tous une présence de l'homme Jésus, mais Arnaud Gauthier n'est pas l'homme Jésus. C'est l'homme Jésus qui travaille dans nos échanges, dans nos relations. Notamment dans les sacrements, mais dès lors qu'on travaille aussi sa parole, et puis surtout qu'on s'accueille mutuellement. Voilà, alors on se laisse un temps pour les questions. Si on a un petit peu débordé, mais...
Dieu a créé l'homme incorruptible.
Oui.
J'ai eu quelques mal à bien comprendre ce que
je veux dire. Oui. On le comprendra pleinement que la résurrection, mais justement, il me semble que... En pénétrant vraiment le mystère que Dieu nous donne, nous révèle par tous les moyens qu'on vient de dire, on entre dans son plan, dans son intention, au-delà de l'apparence et du visible, qui est souillé par la mort, qui est souillé par la souffrance, la mort et le mal. C'est, en fait, cette sagesse, c'est pas une sagesse de naïf ou de, c'est une sagesse de la croix, c'est une sagesse du fait que l'on voit à travers ce qui est un voile pour nous, qui est le voile de la mort physique et de la souffrance et du mal présent, de la permanence du mal dans ce monde. Mais c'est vrai, je consonne Jean-Luc, parce que c'est vrai que quand on lit le livre de la sagesse, je vous encourage vraiment, vous en avez fait déjà, mais le livre de la sagesse est une sorte d'optimisme, enfin de c'est absolument extraordinaire, mais c'est l'optimisme de celui qui a traversé le voile, vraiment. Pas par sa recherche, par sa sagesse, par son aussi la souffrance de sa vie. C'est pas l'optimisme blanc-bleu d'un enthousiaste de 20 ans. C'est vraiment pas ça. Mais c'est vrai que c'est un peu fort.
Oui. Question qu'on s'est posée autour de la table. Comment retrouver l'harmonie perdue?
Oui. Super, ça.
On aurait eu envie de dire, nous, comment trouver l'harmonie recherchée? Comment trouver Dieu? Comment trouver... plutôt que retrouver la
perdu.
Le mot perdu.
Qu'est-ce que ça veut dire, ouais.
Le mot perdu, ça fait penser à quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire, ouais. Et nous, on ne l'a pas compris comme ça. Ouais. On l'a compris plutôt que la perte d'une potentialité.
Oui, c'est très bon. Alors là, celui qui en parle le mieux, j'ai adoré ce texte. Peut-être qu'un jour, j'adorerais qu'on travaille ensemble, vraiment. Ce sont les catéchèses de Jean-Paul II sur la Genèse. Alors, c'est un énorme pavé, enfin, c'est un texte pas évident, mais c'est vraiment extraordinaire. J'ai eu la chance de faire ça pendant 2 ou 3 ans avec des couples. C'est une aventure extraordinaire. Et alors, là, il dit ceci. Comment l'expliquer ? L'idée, c'est que, en pénétrant le mystère de Dieu en nous, dans notre existence, pas doctrinalement, enfin, il faut le faire doctrinalement pour le pénétrer dans notre existence. Mais c'est dans notre existence qu'il faut le pénétrer à la lumière de la doctrine, si vous voulez. Parce que notre intelligence est éclairée, et puis il y a ce travail du Christ en nous qui fait que, voilà, on entre dans ce mystère. Et on découvre notre origine, on découvre ce qui a été perdu, pour reprendre le terme. Pourquoi c'est important de retrouver ce qui a été perdu? Parce que ça veut dire que ça nous appartient, en quelque sorte. C'est ça qui est derrière, me semble-t-il. C'est-à-dire que nous en venons, c'est notre origine, nous en sommes. Bien sûr, toutes les apparences sont contre nous, mais en fait, nous sommes vraiment les fils de cet Adam avant qu'il ne pêche. Finalement, c'est le Christ. Il ne s'agit pas là d'histoire au sens strict du terme. Ce sont des origines, je dirais, ontologiques, c'est-à-dire d'où venons-nous? Quelles sont nos racines? Vous voyez? Quel est le fond de notre être? C'est ça le truc. Mais c'est très différent de dire par le Christ, je me construis avec lui, il construit en moi un avenir radieux, que de dire mon garçon, tu ne viens pas de n'importe où. Je te révèle que tu viens de ce pays-là, qui te semble si lointain, mais tu en es, tu fais partie de sa race, tu fais partie, tu en viens. Voilà. Et tu reviens chez toi, en fait. C'est pas historique ce que je dis, mais c'est ontologique, c'est dans l'être, vous voyez. C'est beaucoup plus optimiste, en quelque sorte, parce que ça signifie que nous en sommes toujours, nous sommes toujours de la race du Christ, nouvel Adam, même si nous sommes encore frappés de la mort et de l'erreur. C'est une très belle question.